thème ce matin pour le message, c'est le Notre Père, ou les lunettes, pas.
J'ai oublié.
L'équipement nécessaire à partir d'un certain âge. Ceux qui ont mon âge, je veux comprendre.
Non, on est là.
Soutenez-moi un petit peu, parce que...
Des jeux. Voilà, merci. Le Notre Père.
Ah.
On est un peu embarrassés, nous, les chrétiens évangéliques, avec cette prière que nous a laissée Jésus. Vous n'avez pas remarqué un petit peu? Je ne sais pas trop quoi en faire, quand même. Alors, dans le catholicisme, on en a fait un peu une récitation. Si c'est du par cœur, et malheureusement, on a un peu vidé de sa substance cette prière en faisant une récitation, et on comprend pas ce qu'elle veut dire, en fait, cette prière-là. Mais elle est devenue banale, du coup, elle était banalisée. Hein? Mais il faut savoir que c'est pas mieux chez les évangéliques. Parce que des fois, on dit chez les autres.
C'est beaucoup, ça.
Si je demandais tout de suite ce que représente le Notre Père pour beaucoup, pas sûr que j'aurais une réponse satisfaisante. Mais c'est pas votre faute. Donc je vous disculpe. Tout de suite. Et je vous mets à l'aise. Hein. Il disait, oh, ça y est, ils vont encore nous accuser de mille mots, là. Mais non, c'est pas du tout ça. Vous avez des excuses. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une prière juive, faite par un juif. Notre Père, si on ne le prend pas dans le contexte de la pensée juive, on comprend pas. Alors, il y a des choses qu'on peut comprendre, évidemment. Hein. Vous avez compris quand il est écrit « Délivre-nous de la tentation », bon, on comprend ce que ça veut dire. Mais, pas sûr qu'on comprenne tout malgré tout. Alors, on va... Et les Juifs, quand Jésus a fait cette prière, en tout cas les disciples de Jésus qui étaient Juifs, ont compris exactement ce que Jésus entendait quand il a fait, quand il a donné ce modèle, parce qu'il n'a pas prié comme ça, c'est un modèle de prière. Et en fait, c'est un modèle de prière qui reprend certainement un enseignement plus long et développé qu'il a donné auparavant. Et il condense, il résume cet enseignement. Alors, on va prendre à partir du verset 7, parce que des fois, je vous ai déjà dit, il faut prendre ce qui est avant, ce qui est après. Alors, on ne prendra pas ce qui est après pour des raisons de temps, mais on va prendre ce qui est avant, parce que c'est important. Il est dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, il nous faut, plutôt que de réciter cette prière, la comprendre. On la chante, et même la chanter, c'est bien. Je suis tout à fait légitime, et je suis bien content qu'on la chante. Mais il faut aussi la comprendre. Donc, il nous reste à bien comprendre ce que Jésus a voulu nous dire. Il y a trois parties dans cette prière, et on verra surtout, j'accentuerai beaucoup plus sur la première partie, qui est peut-être la moins compréhensible en définitive. Mais cette première partie de la prière, elle est source de guérison, elle est source de restauration, elle est source de bénédiction pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour tout homme, toute femme qui s'approche de Jésus. « Avinu asher bashamayim » dit Jésus. Ça ne nous en dit pas plus, hein. Notre Père qui est aux cieux. Mais vous allez voir que c'est une révolution que Jésus a faite à ce moment-là. Et ceux qui étaient là et qui l'ont écouté et à qui il s'adressait n'ont pas ignoré la réalité de ce que Jésus était en train de dire, de ce qu'il exprimait. Et nous, chrétiens, nous sommes aussi à même, si nous le voulons, ce matin, de percevoir ce que Jésus a voulu nous dire à travers cette prière d'inspiration juive. Donc, réalisons bien qu'il s'agit d'un condensé de l'enseignement de Jésus donné auparavant, un résumé d'un enseignement qui était beaucoup plus long, beaucoup plus développé sur chaque point que Jésus a traité dans cette prière. Alors, la première partie de cette prière, c'est « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Et Jésus va dire, avis-nous. C'est pour ça que je l'ai lu en hébreu, c'était pas pour faire du genre. Avis-nous. On dirait comment en langue arabe. Il y a quelqu'un qui pourrait, je sais pas, en langue arabe, comment on dit ça? Notre Père.
Aveva.
Aveva. Vous voyez, il y a des racines communes. Hein? Aveva. Avis-nous pour un juif. Le nous, ça veut dire notre. C'est ce qui correspond à la collectivité en quelque sorte. Sinon, ce serait avis, père. Et en kabyle, je crois que c'est ava. Ava, avis. Vous voyez, c'est très parent. Hein? Avis. Et pour un juif, qu'est-ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on dit avis-nous? À quoi pense un juif quand il dit avis-nous? Eh bien, il pense à une expression toujours employée, avis-nous Abraham, c'est-à-dire notre père Abraham. Rappelez-vous dans Jean 8, quand Jésus parle et qu'il parle de son père, il dit mais nous, on n'est pas des. En gros, il dit nous ne sommes pas des bâtards, nous ne sommes pas des fils légitimes, notre père, c'est Abraham. Vous voyez qu'on prenne ça comme ça. L'importance pour eux, c'est. Le fait d'être des fils d'Abraham, notre père Abraham, parce qu'il pense à Genèse chapitre 12 quand il est dit que Abraham sera le père d'une multitude, d'une postérité, d'une multitude même de nations qui seront bénies par lui. Et dans Jean 8, eh bien, il conteste avec Jésus les docteurs de la loi, les pharisiens, parce qu'ils disent, nous avons pour père Abraham. Et Jésus leur dit, si vous aviez pour père Abraham, eh bien, vous seriez comme lui, mais là, vous montrez plutôt que votre père, c'est Satan, parce que vous êtes meurtrier dans vos pensées, dans votre cœur, et le diable était meurtrier dès le commencement, et les pensées que développaient ces docteurs de la loi, ils avaient envie de crucifier Jésus, déjà dans leurs pensées, ils avaient déjà envie de le mettre à mort, ils avaient d'ailleurs déjà tenté cela, ils avaient échoué, mais Jésus connaît leur cœur, et il sait qui est leur vrai père, et leur père n'est pas Abraham, mais le diable. Or, Jésus dit « Avis-nous », mais sans, il ne parle pas d'Abraham. Là. Il ne dit pas « Avis-nous, Abraham », il dit « Avis-nous », tout simplement. Il ne parle pas d'Abraham. Abraham est complètement absent de l'expression qu'emploie Jésus. Et en fait, Jésus, il établit dès le départ de cette prière la véritable connexion qu'il faut faire. Il faut se connecter à ce qui est essentiel, indispensable, c'est-à-dire le Père, le trône de Dieu, le trône de la miséricorde, le trône de la grâce. Il doit y avoir cette connexion unique avec Dieu. Il doit avoir cette connexion unique avec le Père, avec le Créateur de toutes choses, qui est Père avant même l'existence du monde. Le monde, il découle du monde de Dieu. Notre monde tel qu'il est fait découle du monde de Dieu. Dieu se fait connaître d'un monde qui est le sien, dans ce monde-ci. Il est avant toute chose. Il est le Père de l'existence de toute chose. Il est le Père éternel. Et Jésus lui-même est le seul à même, avec l'Esprit Saint, de dire ce qu'il y a dans le monde de Dieu. Je suis venu d'auprès du Père. Lui seul peut dire ce qu'il y a dans le monde de Dieu parce qu'il est Dieu. Alors, Avis, Père, Av, c'est deux lettres importantes en hébreu. Il y a d'abord la lettre A, Aleph, en hébreu, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et ce mot Aleph, il nous parle de l'unité de toute chose. Il nous parle de l'unité fondamentale, sans commencement. En fait, c'est là où Dieu est. C'est le monde de Dieu. Et ce monde-là, il part d'un point de départ pour nous, pour aller vers un autre point, mais qui est le même. La fin d'une chose, c'est son commencement, disent les proverbes. Et en fait, à travers le commencement, Dieu nous montre où nous devons aller. D'un endroit particulier vers un autre, mais qui se rejoignent, parce que c'est la communion avec Dieu, c'est le lieu de l'unité avec Dieu, c'est le lieu sans commencement. Et c'est le lieu où toutes choses doivent être réunies. C'est pour ça que Dieu revient à cette unité lorsqu'il parle à travers la bouche de l'apôtre Paul, la plume de l'apôtre Paul. Il dit que toutes choses seront récapitulées en Christ. Donc ça a une portée cosmique, ce qui s'est passé à la croix. Jésus, à travers la réconciliation des hommes avec Dieu, nous apporte une réconciliation cosmique dans le sens où eh bien, tout va être récapitulé en lui pour retrouver l'unité fondamentale, le Aleph de Dieu, c'est-à-dire le commencement sans commencement d'ailleurs. L'éternité avec Dieu, où il n'y a pas de commencement, si ce n'est le commencement de ce monde. Et puis vous avez l'autre lettre, le vet en hébreu, un V pour nous. Hein. Et là, c'est tout simplement la notion de complémentarité. Et ça vous parle de Christ, complémentaire avec le Père, et en même temps de nous qui allons devenir complémentaires avec le Seigneur. L'Église qui va rejoindre l'époux pour les noces de l'agneau, par exemple. Et là, il touche deux points quand il parle du Notre Père, quand il dit Notre Père. Il y a deux points qu'il touche. Un point de départ qui est l'éternel Dieu, hein, l'éternel Dieu, en hébreu, Hachem. C'est comme ça que les Juifs prient, ils disent Hachem. Ils parlent à Dieu. Ou Adonai, mais ils disent aussi Hachem, éternel. Et le point de départ avec le A, donc le Aleph, c'est Hachem. Hachem, c'est l'éternel, Dieu. Donc, il touche à cette réalité de Dieu avant même que le monde existe, il est. Et donc, c'est de lui dont il est question dans ce petit mot Av. Et ensuite, il relie le ciel et la terre avec ce mot Av. Et il nous place au même niveau, au niveau du Père, pas au même niveau, mais au niveau du Père. Il nous emmène vers le niveau du Père, vers la communion avec le Père. Le but étant, et vous connaissez la prière, le reste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le but, c'est que le ciel descende sur la terre et que la terre, ceux qui sont sur la terre, montent ensuite au ciel. Et vous avez tout ça dans le mot « av ». L'hébreu est d'une richesse incroyable. Il y a des significations cachées à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre notre Père. Et c'est pour ça que le chrétien n'est pas blâmable. Hein ? Par contre, il faut un petit peu chercher de temps en temps quand même. Sonder les Écritures, car il y est question de moi, dit Jésus. Et après sa résurrection, d'ailleurs, Jésus dira aux femmes, « Je vais vers mon Père et votre Père. » Vers Avi et Avi. Je vais vers mon Père et votre Père. Les docteurs de la loi, d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, étaient agacés parce qu'ils disaient que Dieu est son Père. Et pour eux, ils se faisaient l'égal de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se prenaient pour Dieu. L'égal de Dieu, c'est Dieu. Hein, donc, si Dieu égale Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils se prenaient pour Dieu, mais en fait, il est Dieu. Donc, cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le Shabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père, donc il se faisait l'égal de Dieu, nous rapporte Jean chapitre 5, verset 18. Et dans cette connexion que Jésus a établie pour nous avec le Père, il inclut bien sûr les croyants d'Israël, pas tous ceux qui sont les véritables fils d'Abraham, ceux qui croient au Messie, mais également les croyants de l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il s'est acquise par son propre sang. Et c'est une relation particulière dans laquelle il nous introduit, une relation de proximité, d'être proche avec le Père, une relation très profonde, très puissante, très glorieuse qui s'établit. Il faudrait relire tout l'Évangile de Jean, chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus, pour bien comprendre l'unité dans laquelle Jésus veut nous introduire avec le Père. Il est lui-même, il dit lui-même, le Père et moi-même, nous sommes un, l'unité, le Aleph, mais il veut nous introduire dans ce Aleph aussi, dans cette relation, cette connexion avec le Père. Vous vous rendez compte que c'est une communion de la même nature que lui, que Jésus veut que nous ayons avec le Père. C'est dire, vous vous rendez compte, et toute la suite de la prière va dépendre de ça d'ailleurs, quand vous avez vu comment Jésus, Dieu a pris soin de lui, le Père a pris soin de lui, comment Jésus était dans le Père, eh bien la même chose doit se passer pour nous. La même confiance que Jésus avait dans le Père, dans la barque agitée par les flots, doit nous habiter parce que nous sommes en Jésus et en même temps Jésus nous a introduits dans le Père. Et donc nous devons avoir la même confiance que Jésus avait, lui qui dormait dans la barque alors même que la tempête sévissait. Et des tempêtes dans nos vies, il y en a, des difficultés, il y en a. Mais il nous faut apprendre à dépendre de cette belle communion dans laquelle Jésus nous a introduits et en y entrer encore davantage. Et la parole de Dieu est là pour nous enseigner justement ces réalités, pour qu'on entre davantage et qu'on réponde davantage à l'invitation de venir à lui, de nous approcher de lui. Évidemment, tant qu'on est ignorant de certaines réalités, ça percute pas forcément, mais Dieu nous connecte à travers sa parole à des réalités plus hautes dans lesquelles nous devons entrer, qui sont progressivement celles dans lesquelles on doit entrer, et surtout dans les temps actuels où Jésus est à la porte, il nous faut entrer dans cette connexion avec le Père, dans cette communion extraordinaire avec le Père, et vivre de cette communion parce que c'est une source de guérison. C'est une source de restauration. On parlait l'autre jour d'équilibre psychologique, mais excusez-moi, quand on est dans le Père, l'équilibre psychologique, on l'a. Quand on vit cette belle communion, il y a des libérations qui se font dans la pensée, dans le cœur, dans l'être intérieur, au plus profond de nous. Et des guérisons s'opèrent à cause de cette communion. Et alors, les ressorts psychologiques qui sont là, ils sont solides. On devient quelqu'un de solide, quelqu'un sur lequel Dieu peut compter, mais aussi sur lequel les autres peuvent compter. C'est extraordinaire, cette réalité-là. Mais pour cela, il faut rester en Jésus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il nous établit toujours cette belle connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limitation de débit. Connexion ininterrompue, si nous le voulons, grâce à lui, avec le Père. Mais c'est une communion très puissante, très profonde, à laquelle nous sommes appelés. Je dirais même très glorieuse également. Très glorieuse parce qu'il y a la gloire de Dieu qui est là. La puissance de Dieu, la profondeur de la pensée de Dieu, des desseins de Dieu. C'est extraordinaire. Et il ajoute donc à sa prière, à Vinou, il dit « Asher Bashamayim, qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux ». Et le mot « cieux », donc c'est « Shamayim » en hébreu. Et il a trois sens. Vous retrouvez dans « Shamayim » la racine « Hachem », c'est-à-dire l'éternel, Dieu. Il est déjà présent dans ce mot. Dans le ciel, il y a Dieu. Et ça veut ce que ce mot veut nous dire, c'est que Dieu, il est le ciel lui-même. Dieu, le centre même, le cœur même. En fait, le ciel, c'est son cœur. Le ciel, c'est son QG. Le ciel, c'est la concentration. C'est peut-être même pas le mot. C'est le lieu de la concentration de sa présence. C'est le lieu d'intensité de sa présence. En fait, c'est le lieu de sa présence tout court. Et c'est pour ça que ce mot Shamayim a un premier sens qui nous montre que l'Éternel est lui-même le ciel. Et le ciel est le centre, est le cœur de Dieu, du Père. Et puis vous avez une autre racine dans Shamayim qui est Shemi. Shemi en hébreu, ça veut dire « c'est mon nom ». C'est mon nom. Et en même temps que Jésus nous introduit dans cette prière du Notre Père, il nous dit que nous sommes introduits dans l'Éternel qui est Dieu et qui est en même temps le cœur du ciel. Et en même temps, Jésus nous dit, c'est son nom. Voilà son nom. C'est le Père. Tel est son nom. Et puis, vous avez également Maïm. Vous l'avez déjà dit un jour quand on avait parlé du Saint-Esprit. Maïm, c'est un mot pluriel. Ça nous parle des eaux. Ça veut dire les eaux, les fleuves, les courants. Ça fait partie de Maïm. Et on avait parlé à ce moment-là des courants supérieurs et inférieurs de la présence du Saint-Esprit, du rafraîchissement qu'il apporte. Il y a toujours des eaux dans la présence de Dieu. Ça nous parle, ça évoque la vie de Dieu qui sort de son trône et en même temps, ça évoque la présence et la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il y a dans ce mot. Vous ne pouvez pas le deviner comme ça, dans ces mots. Shamayim, les cieux, c'est au pluriel aussi, les cieux. Et vous avez donc l'Éternel, le cœur du ciel, Shemi, c'est mon nom, et Maïm, les eaux. Le Père est l'Éternel, c'est son nom, il est le ciel, il est la matrice des eaux. C'est de lui que coulent toutes les eaux. Le Saint-Esprit procède du Père qui envoie le Saint-Esprit. Personne du Saint-Esprit est envoyé par le Père, comme Jésus est envoyé par le Père, et comme Jésus lui-même aussi envoie le Saint-Esprit. Il y a cette communion dans la Trinité qui est difficile à imaginer. Mais par cette prière, Jésus nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est-à-dire cette communion avec le Père, provoque l'exaucement de prières. Eh oui. Alors, on l'a vu, il ne faut pas multiplier les prières comme les païens, etc., les paroles, mais nous devons apprendre à prier comme Jésus nous l'indique. Et dans Jean, chapitre 11, verset, je crois, 41 et 42, ça doit être ça, eh bien, il y a ce passage de la résurrection de Lazare, où il nous est dit, « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » C'est splendide, c'est prodigieux ça. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Quand on arrive à ce niveau de prière, c'est extraordinaire. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Ça arrive à des chrétiens. Hein ? J'ai eu une expérience comme ça un jour où je devais avoir un travail. Je priais pour avoir un travail, j'ai un entretien, et plusieurs autour de moi me disaient « Mais non, allez, commence pas à penser que parce que ton Dieu, nanana, mais... » Mais en fait, moi j'avais la conviction que c'était bon, que j'étais exaucé dans ma prière. Et on pouvait me dire tout ce que je voulais, quoi, tout ce qu'on voulait, eh bien, ça marchait pas parce que je le savais, c'était ancré là. Et effectivement, j'ai eu l'emploi. « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais Jésus a pu dire, je sais, tu m'exauces. Oh. Vous vous rendez compte que c'est dans cette communion-là, qui est la sienne, dans laquelle il veut nous introduire avec le Père. C'est-à-dire une communion qui, quand nous prions, nous sommes exaucés. C'est une communion qui nous permet de connaître les plans de Dieu, sa volonté, et de prier en accord avec sa volonté. C'est dire s'il faut y passer un peu de temps quand même, hein, que Dieu n'est pas un tiroir caisse ni un distributeur automatique de boissons. Hein. Je me regarde comme ça. Bon, on sait de quoi on parle, mais c'est une connivence. Voilà, mais en tout cas, il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour arriver à ce niveau de prière. Il faut chercher cette communion. Il faut... entrer dedans, parce qu'en fait, c'est à nous. Ce que Jésus veut nous dire à travers cette prière, c'est que c'est pour nous, ça. Il faut le prendre, il faut entrer. Voilà ce qu'il est venu faire. Rétablir la communion, nous réconcilier avec le Père, mais en même temps, il nous dit, maintenant que vous êtes réconciliés avec le Père, entrez dans sa présence, entrez dans le lieu très saint. Ne restez pas sur le parvis, ne restez pas dans le lieu saint, allez dans le lieu très saint et communiez avec Dieu. Et quand vous allez prier, vous allez être exaucé comme Jésus a été exaucé. C'est une belle leçon pour chacun d'entre nous, en fait. Hein. Cette prière, finalement, nous ramène au commencement de toute chose, à l'éternel, au Père et à sa bonté. Elle nous connecte avec lui. Tous les principes qui régissent cette relation particulière que nous avons avec Dieu se trouvent là dans cette prière. Notre Père qui est aux cieux. En fait, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'il ne fait pas de favoritisme. Son chouchou, c'est pas forcément Jésus, même s'il a mis, il a trouvé tout son plaisir en Jésus. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous sommes en Jésus. Donc, Jésus n'est pas le chouchou pour qui les prières sont exaucées uniquement. Mais ce que Dieu veut faire, c'est à travers Jésus, en Jésus, nous exaucer aussi. Il le dit dans sa parole. Et nous apprenons à vivre le même exaucement, la même autorité et la même puissance dans la prière. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait davantage d'œuvres et de miracles que lui a pu en faire lorsqu'il était sur cette terre en 3 ans. Parce que, eh bien, nous pouvons, avec la communion qu'il nous offre, eh bien, vivre cette dimension-là, la même que Jésus a vécu. Et Paul, dans ses épîtres, insiste énormément sur cette expression « en Jésus-Christ ». C'est dans l'union avec Jésus-Christ, que nous retrouvons l'unité avec le Père, que nous revenons à l'unité avec Dieu, au Aleph dont nous avons parlé. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. En fait, ça veut dire « Shemo ». Shemo, ça veut dire « c'est mon nom », comme on l'a vu tout à l'heure. Et alors, je vais le dire en hébreu, parce que ça va vous parler. Vous savez, on chante « Kadosh ». Ah, douche, pas. Ça veut dire saint. Mais il va dire Yid Kadesh Shimcha. Yid Kadesh, vous avez entendu Kadesh. Surtout les sons qu'il faut retenir. Kadesh. Yid Kadesh Shimcha. Ça veut dire que soit mis à part ton nom. C'est-à-dire que dans la pensée juive, quand c'est dit comme cela, Kadesh, ça veut dire que le nom de Dieu ne doit pas être mélangé avec d'autres noms. Comme par exemple, quand il est dit qu'un mets rituel, un cachet, au fond, eh bien, ne doit pas être mélangé, il ne doit pas y avoir de mélange entre l'impur et le pur. Eh bien, Dieu ne doit pas avoir, lui, son nom mélangé à d'autres. Parce que la réalité de Dieu est incomparable. Dieu est incomparable dans ses œuvres. Il fait des merveilles. Ce qu'il fait complètement tout autre. Il est le Dieu tout autre. Il est à la fois proche de nous, mais il est le tout autre. Et donc, nous ne pouvons pas, eh bien, ne pas sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire le mettre à part, ni le mélanger avec les autres. Kodesh, c'est cette réalité-là, c'est coupé, vraiment coupé de tout. Et Dieu se distingue, par exemple, lorsqu'il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, vous connaissez l'épisode, il va dire « Je suis et mon nom ». Au fond, il dit « C'est mon nom, je suis l'Éternel, Hachem ». Et une telle prière que nous ferons, nous, authentiquement, va nous propulser également dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Et même la pensée dans tout cela, c'est que ça va même nous faire perdre conscience du temps et de l'espace. Regardez l'apôtre Jean, qui était ravi en extase. L'apôtre Paul, ravi en extase. L'apôtre Pierre, ravi en extase. Parfois, on peut perdre dans la prière, quand on est vraiment authentiquement engagé dans la prière, on peut presque perdre les pédales, je dirais, en perdant l'espace et le temps. Et vous pourriez regarder une horloge quand vous devenez un homme et une femme de prière, eh bien, il se pourrait que des heures soient passées que vous ne vous en êtes même pas aperçu. C'est ça la vraie prière. Elle nous propulse dans la communion avec le Père et vous perdez le sens de l'espace, presque le sens des réalités. Et c'est comme ça que des hommes comme Jean ont pu voir l'apocalypse qui va se passer dans les temps de la fin, l'apocalypse leur a été révélé parce qu'ils étaient dans la prière. Ils passaient du temps dans la prière et ils ont perdu à certains moments conscience du temps qui passait, de l'espace également. Et nous devons trouver cette dimension céleste de la prière. Alors la prière, vous le savez, c'est pas ce qui attire les foules. Si demain j'appelle à une convention pour recevoir des prophéties, toute l'Église va y aller. Parce que toute l'Église croit en Madame Soleil. Je crois dans les prophètes, mais je ne pense pas qu'il faille tous recevoir une parole. On arrive à 300 et puis on reçoit tous une parole. Alors autant aller voir Madame Soleil, frères et sœurs. Que la parole, elle est là. On l'a déjà. Alors on peut recevoir de temps en temps une parole à travers les dons spirituels. Même souvent. Mais à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il y a des gens qui se précipitent à, ils font 500 kilomètres. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui nous disent qu'ils peuvent pas venir à l'église. Que c'est un kilomètre trop loin. Ils sont capables de faire 500, voire plus de kilomètres pour aller voir des prophètes et les consulter. C'est même pas sûr qu'on leur dit toujours la vérité. Des fois, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. En fait, ils sont comme des gens qui... Ils sont pas mieux que le monde parce qu'ils vont voir Madame Soleil déguisée en prophète, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord? Alors qu'on peut même recevoir dans notre église une parole. Comme si Dieu était limité. Il faut qu'on aille à 500 kilomètres pour écouter une parole qui vient de Dieu. Mes frères et sœurs, si Dieu veut vous parler spécifiquement, vous donner une direction, une directive, il peut vous parler personnellement. Ça m'a toujours fendu, ça. Par exemple, quelqu'un me dit un jour, j'ai une prophétie pour toi, pour ton service. Mais je lui dis, tu la gardes parce que, en général, quand Dieu veut parler à l'un de ses serviteurs, il parle pas comme ça. Il lui parle directement. Il y a aussi des gens qui vous disent, j'ai fait un songe pour toi. C'est pas biblique. Pas le songe, vos vieillards auront des songes, etc. Ce qui n'est pas biblique, c'est que si vous examinez dans la parole de Dieu, quand quelqu'un a eu un songe, c'était la personne concernée. Exemple, Joseph, le père adoptif de Jésus, reçoit un songe pour ce qu'il concerne par rapport à cet embarras qu'il a avec sa fiancée Marie. Eh bien, c'est Dieu qui lui parle personnellement à travers un songe. C'est pas un frère, c'est pas je sais pas qui vient. Et puis, même Pharaon, c'est lui qui a le songe. Joseph n'a fait qu'interpréter, l'autre Joseph, n'a fait qu'interpréter le songe du Pharaon. Il n'a pas eu le songe. Et puis, pareillement, dans Daniel, c'est pareil. Ce sont les gens concernés qui ont le songe. Par contre, ce qu'a fait Dieu, il a révélé à Daniel, ou même à Joseph, le songe de Pharaon, et il a révélé aussi à Daniel le sens. Mais par contre, en aucune manière, vous ne trouverez quelqu'un qui vient dire le songe qu'il a eu à un autre. Tout ça, c'est de la bêtise, c'est de la fadaise. C'est de la... Et puis ceux qui croient ça sont des niais. Excusez-moi, il vaut mieux que vous lisiez la parole que de croire ces bêtises-là. Sinon, c'est de la niaiserie, c'est de la naïveté. Et nous ne sommes pas appelés à être naïfs, nous sommes appelés à sonder les Écritures et voir si ce qu'on nous dit est exact. Vous pouvez aller vérifier, il n'y a personne qui reçoit un songe d'un étranger. Le songe, on le reçoit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? J'ai rêvé, par exemple. Ah ben c'est, j'ai songé, c'est pareil. Mm-hmm. C'est pas l'autre qui rêve pour moi, c'est moi qui rêve. Voilà. Déjà là, vous avez dans le mot tout le sens des choses. Je le dis parce que les songes sont revenus à la mode. Tout le monde a un songe. Mais c'est toujours pour quelqu'un, si jamais pour soi. En fait, Dieu, quand il vous donne un songe, c'est pour vous. Pour une situation précise, pas pour les autres. Les autres sont tout à fait aussi capables que vous de recevoir le songe. Il n'y a pas de super songeur. Moi, ça me laisse songeur. Et ça, c'est important quand même. La prière, donc, je disais, c'était une parenthèse pour vous amuser un peu, mais détendre l'atmosphère, parce que c'est un peu tendu quand même. La prière, si on organise une rencontre de prière, il y aura 3-4 personnes dans la semaine. Allez, peut-être un peu plus si on gonfle un peu la publicité, qu'on met un slogan avec. Mais par contre, convention pour aller voir des prophètes, Madame Soleil, convention pour je ne sais quoi faire, il y a toutes sortes de divertissements qui sont offerts dans le monde évangélique. Il y aura du monde, mais la prière, il n'y a personne. Et pourtant, la prière, c'est ce qui change tout. La prière, c'est ce qui change ma relation avec Dieu. La prière, c'est ce qui change ma relation avec les autres. La prière, c'est ce qui me connecte dans une dimension plus haute et plus élevée avec le Seigneur. La prière, c'est ce qui déclenche les réveils spirituels pour la nation. Le reste, ça ne le fera pas. « Que ton règne vienne, dit Jésus. » Malrout en hébreu, la royauté, le règne. C'est l'idée d'une tête couronnée, même déjà dès le départ. Vous saviez que, par exemple, le roi des Belges... Si vous retirez sa couronne, vous partez en prison. Vous passez derrière lui, vous lui retirez la couronne comme ça, même pour rigoler, vous allez en prison. Parce que la couronne sur sa tête, c'est ce qui célèbre sa royauté, c'est ce qui constitue sa royauté en tant que chef du royaume, finalement, des Belges. Et vous êtes passé d'une sacrée peine de prison avec des amendes terribles. Parce que vous touchez aux institutions, mais d'une manière profonde. Alors que dire du roi des rois ? Du Seigneur des Seigneurs. Lui, que son règne vienne. Il y a l'idée d'une tête couronnée qui doit venir déjà dans ses pensées. Une tête couronnée. Dans le mot Malrout qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, il y a l'idée d'une tête couronnée qui doit venir. Un roi, un Messie qui doit venir. Le roi messianique qui doit descendre sur cette terre. Et cette prière du Notre Père, elle dit que ce Père dont le nom est incomparable, eh bien, il va faire descendre. Cette prière que nous lui faisons, va faire descendre ce roi messianique, cette royauté messianique, elle est descendue une fois, le roi humble est venu sur un ânon, mais bientôt le roi va venir les deux pieds sur le mont des Oliviers, la montagne va se fendre, et c'est en gloire qu'il revient, c'est le retour glorieux dont il est question dans la parole de Dieu. Et que ta volonté soit faite. Et dans les mots qui sont employés, ratson, le mot chemo se colle avec ratson, et vous, je vous avais parlé la semaine dernière que quand un mot a une valeur numérique en hébreu semblable à l'autre, c'est que ça veut dire quelque chose. Et tous les deux, ils ont le chiffre 346. Ce qui veut dire que le nom de Dieu et sa volonté ne font qu'un. Donc respecter le nom de Dieu, c'est faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est respecter le nom de Dieu, c'est craindre son nom. Sa volonté et son nom sont une seule et même chose. C'est ce que nous indique la valeur numérique en hébreu. Et prier, demander sans, dans sa volonté, pardon, c'est réaliser que rien ne peut se faire sans lui. Rien ne peut se produire sans le nom divin et la dimension céleste qui va avec la puissance de ce nom. Moi, j'aime bien dire au nom de Jésus, pour terminer ma prière. C'est pas pour une formule magique, hein. Il y en a, ils l'emploient comme une formule magique. Mais parce que dans le nom de Jésus, Il y a toutes les armées du ciel qui sont contenues. Dans le nom de Jésus, il y a toutes les libérations, toutes les guérisons. Dans le nom de Jésus, il y a la croix. Dans le nom de Jésus, il y a le Père. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Et c'est pour ça que je prie dans le nom de Jésus personnellement. Pas comme une formule magique où on dirait « Allez, au nom de Jésus, ça va se faire ». Non, non, non. Des fois, il y a des combats, même ça ne se fait pas tout de suite. Parce que justement, il y a un combat et c'est dans le nom de Jésus, le nom du chef de l'armée de l'Éternel, qu'on prie. Mais en tout cas, nous avons cette promesse faite dans Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 14. « Et voici l'assurance que nous avons devant lui. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Est-ce que nous avons déjà pris ça dans notre manuel de survie dans la prière? Oui, parce que, étant donné qu'on a du mal à prier plus d'un quart d'heure la plupart du temps en France, nous avons besoin d'un manuel de survie dans la prière. C'est moi qui l'ai inventé. Mais ça en fait partie, à Jean 5, 14. Quand on sait, et voici l'assurance que nous avons devant lui, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça ne donne pas envie de prier, ça? Bien sûr, si on commence à prier et puis au bout d'un quart d'heure, on se dit « Oh, de toute façon, peut-être que Dieu m'entend pas. » Mais quand on a ces promesses-là et qu'on s'en arme, qu'on s'en équipe, alors on prie beaucoup plus longtemps, on tient, et ça devient une habitude. Donc, que ta volonté soit faite. Et le verset dit « Qu'elle soit faite et qu'elle soit faite dans le ciel. » Cette volonté sur la terre qui va avoir lieu, elle se connecte avec la volonté céleste, avec la volonté de Dieu. Elle devient une seule et même chose. Il y a alors unité avec le ciel, on revient au Aleph, ce que signifie profondément cette prière du Notre Père. J'ai lu quelque part que le chandelier, vous savez, le candélabre avec les sept branches, il y a des choses au milieu, ça se relie. C'est pour nous mettre au même niveau que le Messie, c'est-à-dire que Jésus. En fait, Dieu veut nous mettre au même niveau que Jésus. C'est pour ça que Paul parle toujours en Jésus, en Jésus, en Jésus, parce qu'on doit être au même niveau que lui. D'ailleurs, nous sommes co-héritiers avec lui. C'est ce que Dieu veut. Toutes les lumières du candélabre sont au même niveau, même si, vous voyez, ça fait ça. Mais ça dépasse pas, parce qu'en fait, tout doit être au même niveau. Nous sommes appelés à prier comme le Messie, comme Jésus. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul pouvait déjà dire aux Corinthiens, malgré leur imperfection, vous savez que les Corinthiens, parfois, il y avait le péché dans l'Église, hein, mais il dit, déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Comment règne-t-on? On règne par la prière. On règne par la communion avec Dieu qui nous mène dans la prière. La prière, c'est un instrument de règne. Vous pouvez prier avec autorité contre toutes les forces démoniaques. Vous aurez la prédominance. Ceux qui vous disent que les démons sont plus forts que vous sont des menteurs, à la solde du prince du mensonge. Les prédicateurs qui parlent constamment de possession des chrétiens, etc., sont des menteurs. Seuls les gens nés et non nés de nouveau peuvent développer de telles choses. Ou ceux qui pêchent volontairement et qui donnent accès au diable volontairement, bien entendu. Mais celui qui prie au nom de Jésus fait trembler l'enfer. Avant même que vous ayez commencé, ça s'enfuit déjà ou ça se cache. Quand Jésus est venu dans la synagogue, il y avait un démon caché dans quelqu'un. Il faisait aucun bruit. Aucun bruit. Parce qu'il ne voulait pas être dévoilé, mais la présence de Jésus va le dévoiler. Et le jeune homme qui était possédé va être libéré. Dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut résister au nom de Jésus, parce que c'est le nom de l'Éternel, le nom du Dieu qui a fait toutes choses. C'est pour ça qu'on peut régner dès maintenant, c'est bien écrit, dès maintenant, par la prière, pour manifester l'autorité du royaume de Dieu. C'est ça que ça veut dire. L'autorité du règne de Dieu. Être, quand on est dans sa volonté, on exerce l'autorité du règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le fondement même de la présence de Dieu sur terre. Il est venu établir son royaume dans les cœurs, et bientôt, quand Jésus reviendra de manière physique et glorieuse sur la terre, ce sera pour établir un règne millénaire, messianique, sur cette terre. Et là, la volonté de Dieu va rejoindre, la volonté céleste de Dieu va rejoindre la volonté terrestre. Le Notre Père, c'est donc une prière messianique, une prière qui appelle le Messie, et son retour, elle n'a que pour but que de faire revenir ce roi. Voilà à quoi elle sert. Alors voyons, on verra plus rapidement la deuxième partie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, quand il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », le pain en hébreu, vous le savez, c'est Lechem, Bethlehem, Bethléem, la maison du pain. C'est là où Jésus est né. C'est déjà révélateur, c'est un témoin indicateur. La maison, maison, on retrouve la maison, le thème de la maison du pain. Et il nous dit « Et lanu ayom lechem ». Ayom, ça veut dire « aujourd'hui ». Et avec Jésus, c'est toujours aujourd'hui. Donc, notre pain, en fait, ça veut dire « notre pain ». Qui est le revenu fixe et réglé pour nous et dont nous avons besoin. C'est-à-dire ce que Dieu a préparé comme provision. Ça fait partie des pâturages que Dieu nous a préparés en quelque sorte pour nous. Notre pain, le revenu fixe est réglé pour nous et dont nous avons besoin. C'est-à-dire quand Dieu pourvoit. Et ça nous ramène à quel passage dans l'Ancien Testament ? À la manne dans le désert quand Dieu a pourvu aux besoins de son peuple qui regrettait de ne plus être en Égypte. Et de ne plus manger les oignons, les concombres, et j'en oublie, qu'il y avait en Égypte. Et c'est il y a deux traductions pour traduire notre pain quotidien. Donc, notre pain, qui est le revenu fixe, est réglé pour nous, et dont nous avons besoin. Ou alors, deuxième traduction, mais elles sont bonnes toutes les deux, notre pain selon nos besoins, vous allez comprendre. C'est parce qu'il faut revenir à l'Ancien Testament. Ces deux traductions nous ramènent au peuple d'Israël dans le désert, et donc, ce peuple qui se plaignait de ne plus avoir de nourriture, et Dieu va pourvoir par un revenu fixe et réglé d'avance depuis le ciel, quoi ? La manne qu'ils vont avoir pendant tout leur périple au désert. Voilà le sens de la première traduction. Même si le pain du désert n'est pas le Messie lui-même, il en est l'image, ce pain, et Jésus dira lui-même « Je suis le pain du ciel qui est descendu vers vous ». Et il dira aussi « Nul ne vient au Père que par moi ». Il est ce pain de vide dont il parle lui-même en Jean chapitre 6. Le premier fondement du pain, c'est le fait que c'est Dieu qui nous le donne. Le pain, c'est Dieu qui nous le donne. Et tout ce que nous recevons vient de Dieu. Et c'est pour cela que récemment, dans une émission qui a lieu le dimanche matin sur le judaïsme, le rabbin José Zenberg qui présente l'émission disait « Un juif qui ne prie pas et qui ne rend pas grâce avant de manger est considéré comme un voleur. » Parce que c'est comme s'il prenait de la nourriture sans remercier celui qui en est le donateur, le pourvoyeur. Ça nous ramène à nous aussi. Des fois, si on oublie de rendre grâce, vous voyez. Cette prière nous dit aussi « Ayom, aujourd'hui ». Cela veut dire que Dieu veut nous introduire dans cette relation où on dit « J'ai confiance en toi pour mon pain aujourd'hui et je te ferai confiance demain comme je te ferai confiance après-demain, etc. » C'est ça que ça veut dire, le ayom. C'est un ayom continuel, un aujourd'hui continuel, où je fais confiance, je ferai confiance et je ferai encore confiance. Voilà ce que Dieu veut nous dire à travers aussi cette prière, c'est qu'on doit faire confiance à notre Père qui pourvoit nos besoins, qui est celui qui revêt les fleurs, les lys des champs, etc. et qui peut aussi pourvoir à nos besoins. Et il nous introduit dans une situation à même de faire des expériences également. La foi dans nos besoins, c'est aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 14, verset 20, avec l'épisode de la multiplication des pains, il est dit « Ils mangèrent tous et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. » Quand Dieu donne, il y a toujours de l'abondance. Quand Dieu donne, il y a toujours un plus. Il y a du rab. Deuxième traduction, elle nous ramène à l'épisode de Josué chapitre 5, verset 12, et nous lisons « Et la manne cessa le lendemain quand ils eurent mangé des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan cette année-là. » Voyez, on est passé du désert à une autre étape de la vie du peuple d'Israël, la conquête de la terre promise, l'entrée dans la terre promise. Alors on mangeait de la manne dans le désert, mais il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre pour le peuple. Ils ont mangé ce qui provenait de la terre promise, mais maintenant ils vont devoir non plus attendre de Dieu la manne, mais ils vont devoir tout simplement attendre le blé et que Dieu bénisse leur récolte. Mais ils vont devoir quoi ? Travailler. Ils vont devoir travailler pour avoir du pain. C'est une autre dimension humaine. Et là, pour travailler et pour avoir du pain, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a le labour, et le labour, c'est dur. Il faut la semaille, il faut semer. Il faut cultiver ce qu'on a ensemencé. Il faut entretenir la récolte. Ensuite, enfin, il faut entretenir tout ça, mais en même temps, il faut récolter. Et ensuite, il faut battre le blé pour prendre le grain, enlever la paille, c'est très biblique. Il faut moudre. Ensuite, il faut battre et pétrir la pâte. Ça, les boulangers connaissent bien. Et puis, il faut ajouter les ingrédients qui sont nécessaires. Et puis quoi ? Il faut assurer la cuisson. Tout ça, c'est du boulot. Et le peuple d'Israël était invité à quitter la pleine dépendance de Dieu pour entrer dans une autre dépendance qui est celle des bonnes récoltes que Dieu donnait. Mais en même temps, il y a un travail à effectuer. Vous voyez ? Dans le sens de la provision de Dieu, ça peut être le travail, comme ça peut être quand on vit par la foi pour des raisons eh bien, que Dieu énonce et auxquelles il nous a appelés. Eh bien, voilà, moi je connaissais un pasteur qui, en Belgique, les pasteurs, ils ne reçoivent pas de salaire dans les églises. C'est bien regrettable pour eux. Et il y en a un, ils vivaient par la foi, les autres, ils travaillent. Alors, il y en a qui vivent par la foi parce qu'ils y sont appelés, d'autres qui travaillent. Ça ne veut pas dire que celui qui travaille n'a pas la foi, mais celui qui ne travaille pas a une foi particulière. Enfin, celui qui vit par la foi a une foi particulière qu'il exerce, mais parce qu'il était appelé à cela. Et puis l'autre qui travaille, mais il travaille, mais il fait tout autant. Et voilà. Et donc, il y avait un pasteur qui nous racontait eh bien, que pratiquement chaque année, il recevait des costumes Hugo Boss de la marque. Et il vivait comme ça. Et puis en même temps, il vivait dans une ville. Il nous avait raconté, il vivait dans une ville. Il n'a pas eu le temps de nous raconter comment Dieu avait pourvu comme ça, mais en tout cas, c'était une réalité. Et puis, il y a le pardon. Alors, on ne va pas non plus s'éterniser, parce que le pardon, c'est une prédication en soi. Le pardon, on a l'impression d'un renversement. On a l'impression que Dieu nous pardonne si nous pardonnons quand on lit le texte. Hein? Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, le juif, il sait de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, il sait que le premier qui pardonne, c'est Dieu. Et Dieu a déjà pardonné en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu a trouvé le moyen de permettre à l'homme d'entrer dans une correction de ses fautes, en quelque sorte. Il lui a donné la matrice pour être sauvé. C'est toutes les conditions du salut en Jésus. Et donc, Dieu a transformé la chute d'Adam en un sauvetage par le Sauveur. Le pardon est donc déjà accordé. C'est déjà sur la base du pardon que cette prière est abordée. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence du Père si vous n'êtes pas pardonné. On est d'accord ? Donc c'est sur cette base-là que vous pourrez pardonner à d'autres. Et ne pas pardonner, alors, nous dit Jésus, nous place dans une situation délicate. Nous n'avons pas d'excuse, nous qui avons été pardonnés, nous qui avons connu le pardon initial, le pardon premier en Dieu, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas, à notre tour, pardonner les autres pécheurs. Les pécheurs que nous sommes ont été pardonnés, on ne peut pas ne pas pardonner à d'autres pécheurs. Le manque de pardon provoque des liens profonds chez les gens. Et quand on pardonne, le pardon doit nous délivrer quelque part. Et en même temps, c'est un pardon qui doit être définitif. Et on doit lier notre langue pour qu'elle ne déblatère plus sur celui avec qui nous avons eu des problèmes auparavant. Et celui à qui nous avons pardonné, celle à qui nous avons pardonné, la médisance ne peut plus avoir cours après le pardon. Voilà ce qu'on peut en dire. Le pardon, il est premier en Dieu. Et donc, c'est parce que nous avons été pardonnés que nous devons pardonner. C'est le sens de la prière. Et puis, on arrive à la tentation. Et là, on va en dire juste quelques mots. On sait bien que Dieu ne tente personne. Et la Bible Chouraki étant un juif, a traduit « Ne nous fais pas pénétrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du criminel. » On sait tout de suite de qui il s'agit. Hein? « Délivre-nous du mal », on a traduit, mais « délivre-nous du criminel ». Et cela nous ramène où ? Toujours dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 3, où le serpent ancien tente Adam et Ève. Et vous savez que le mot « serpent » en hébreu, c'est « nachash ». Et dedans, il y a le sang, il y a un sens caché qui parle de la nudité. À cause de son orgueil et de sa chute, Le diable est devenu nu. Et c'est pour ça qu'il a voulu que Adam et Ève aient la même condition que lui. En perdant la communion avec Dieu, Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus. Mais ce n'est pas la nudité physique seulement, c'est la nudité spirituelle. Ils n'étaient plus revêtus de la communion avec Dieu, ils n'étaient plus revêtus de la présence de Dieu, d'où la précipitation de Dieu à les revêtir de peau d'animaux. Ça a tout un sens symbolique en même temps. Il fallait un sacrifice pour qu'à nouveau ils soient revêtus. Nous, il nous est dit par l'apôtre Paul, vous avez revêtu Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Finalement, j'ai même l'impression qu'on est mieux qu'Adam. On a une situation plus aisée qu'Adam. Nous avons revêtu Christ. Lui n'avait pas revêtu Christ encore. Il avait une communion avec Dieu, mais nous, nous avons revêtu Christ. Lui, il était dans un temps de mise à l'épreuve, finalement. Un temps particulier. Quand il était mis à l'épreuve, il n'a pas réussi le test, il a échoué. Mais nous, par descendance, nous avons échoué aussi. Mais en Jésus-Christ, nous avons une alliance meilleure. Et nous sommes revêtus de Christ. Et frères et sœurs, ne soyons jamais nus. Rappelez-vous ce que dit l'Apocalypse avec Laodicée, cette église qui était misérable, aveugle et nue. La nudité spirituelle peut nous priver de la résurrection glorieuse à laquelle nous sommes appelés. C'est pour ça que Paul dit « si je peux parvenir à la résurrection ». Parce que si un chrétien... quelqu'un qui se dit chrétien est nu, il ne peut pas parvenir à la résurrection glorieuse. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit « si », il y a un « si ». C'est pour ça que nous devons être revêtus de Christ. Quelqu'un qui se retire de Christ n'est plus revêtu de Christ. Et au jour, eh bien, au jour de l'enlèvement ou au jour de sa mort, il y a une nudité spirituelle. Vous voyez ? Le Narache, le serpent ancien, veut nous faire partager sa nudité, alors que notre Dieu, lui, veut nous faire partager tout l'héritage de sa gloire, de sa bonté, que des choses bonnes. En fait, ce Genèse chapitre 3 nous révèle tout le comportement de l'humain et aussi la manière maintenant dont il nous faut réagir, du coup. D'où cette prière ne nous induit pas en tentation. La première tentation dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est que toujours dans notre vie, il nous faut mettre le Seigneur en premier. L'arbre de vie en premier, et non pas comme Adam, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est pour ça qu'Hébreux, qui s'adressait à des Juifs une fois encore, aux Hébreux, dit « Ayez les yeux fixés sur Jésus, sur Yeshua, le rémunérateur de ceux qui recherchent Dieu. » Alors, conclusion, parce qu'on ne peut pas voir chaque aspect en profondeur, mais le but c'était de voir le commencement surtout. La deuxième partie, on a vu les trois parties, mais... la première partie, vous l'avez compris, est la plus importante, cette relation avec le Père. La prière, je crois qu'à la lumière du Notre Père, elle a pour but notre union avec le ciel, notre union avec le règne de Dieu, avec sa volonté. C'est à ça que sert la prière. Et j'aimerais qu'on se rappelle aussi d'un élément particulier. Je le disais il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui disent « je veux plus de Jésus, plus ». Les prédicateurs qui... l'impression qu'ils remplissent un bidon d'essence, plus, alors vous avez plus, puis selon la langue, en Espagne ou en Amérique du Sud, passe, comme s'ils avaient le pouvoir de remplir quelqu'un. Ça se coud, mais de rire. À un moment, il faut arrêter tout ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est à moi de demander d'être rempli aussi. Pas parce qu'un prédicateur va faire masse que je vais être rempli. Ça dépend de mon état de cœur, ça. Hein? Mais si tout simplement, au lieu d'aller à des conventions, à des réunions pour qu'on nous impose les mains, pour qu'on soit rempli complètement à bâbord du Saint-Esprit, etc., de toutes les bénédictions que Dieu peut vouloir nous donner, rappelons-nous ce que le Père a dit à son fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Il a dit au fils aîné, celui qui n'était pas content, il a dit « Mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai, ça a beau être dit au fils aîné, c'est une belle parole. Et à travers cette parabole, il nous est dit ce matin, tu te rends compte, tu es toujours avec moi, toi. Tu vas à l'église, tu pries chez toi, tu vis dans ma communion. Tout ce que j'ai est à toi. Ça vaut pas le coup de prendre, de saisir, d'administrer même les choses que Dieu nous donne. Chacun pour notre part, mais collectivement aussi en tant que corps de Christ, sommes appelés à nous élever au niveau de Jésus, dans la prière et à nous connecter comme Jésus avec le Père, dans le Père, dans la perspective de vivre dans sa présence et comme Jésus de vivre le plein exaucement de nos prières. C'est peut-être comme ça que nous allons déclencher un réveil. Si nous prions selon la volonté de Dieu, on est exaucé comme Jésus l'a été. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que vous avez compris le sens, l'enjeu de cette prière. Je ne prétends pas ce matin avoir tout couvert. J'ai été aussi chercher des sources, hein, évidemment. On ne sait pas tout. Mais Dieu nous donne, même avec des sources, une autre compréhension, nous ramène à d'autres passages. Et ça me fait faire encore une petite parenthèse. Vous vous rappelez quand le frère qui était venu du vieux art, Emmanuel, vous avait présenté des Bibles nouvelles. Quelqu'un m'a dit, moi je ne l'ai pas acheté, mais quelqu'un m'a dit l'avoir acheté et avoir fait une petite étude, et que c'était incroyable parce que d'un passage, vous fait passer à un autre passage, qui vous fait passer à un autre passage. Vous pouvez finalement, vous qui n'êtes peut-être pas habitué à préparer une étude biblique, vous allez en préparer une avec cette Bible-là sans vous en rendre compte, parce qu'une heure après, vous y êtes encore. Vous ramène à tel passage, qui vous ramène à tel passage, qui vous ramène à tel autre. Et à la fin, vous avez passé une heure et vous n'avez rien vu. C'est extraordinaire. Pareil que c'est bien. Je ne la connais pas vraiment bien, parce qu'il l'a présentée, je le crois, mais je ne l'ai pas vue moi-même. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est pas toi qui l'avais... C'est une autre. Mais il paraît que c'est extra. Donc, nous pouvons découvrir des choses par nous-mêmes, à travers des instruments qu'on nous fait aujourd'hui avec l'informatique et tout. Vraiment, puissions-nous vraiment nous instruire de ce que Dieu nous dit pour grandir. C'est pas connaître pour connaître. Hein, vous savez, quand j'ai dit à Vinou, je me rappellerai plus demain, hein, vous croyez pas que c'était pas pour faire du genre, c'est parce qu'il faut bien dire les mots, mais il y a la moitié de ce que j'ai dit que je vais plus me rappeler. Et à moins de l'apprendre par cœur, mais bon, c'est du boulot. Et nous avons besoin de creuser. Creuser pour progresser. Sonder pour aller de l'avant et grandir. Et connaître ce que Dieu veut de nous. Et quand une église, quand l'église de Jésus-Christ connaît ce que veut son Seigneur pour elle, elle grandit et en même temps elle vit dans une autre dimension. Et il faut qu'on décolle un peu de cette terre, frères et sœurs. Il faut un petit peu qu'on décolle de nos habitudes, qu'on décolle de notre petite relation avec le Seigneur pour avoir une plus grande et plus grande connexion. On a su passer du petit débit au moyen débit, jusqu'au haut débit et à la fibre, et puis je ne sais pas ce qu'on rencontre après, il y a la 5G. On sait faire ça. Eh ben, dans la communion avec Dieu, c'est pareil, on doit progresser. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et rappelons-nous cette parole extraordinaire, « Tout ce que j'ai est à toi ». On est vraiment les co-héritiers de Christ dans le Père. Amen.